Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Gloire à Dieu. Nous allons partager la parole de Dieu ce matin. Et nous allons lire ensemble dans Hébreux. Hébreux au chapitre 12. Et au verset 2. Et ce matin, nous allons parler du fait que Dieu est un Dieu de foi. Hébreux chapitre 12, verset 2. L'apôtre Paul nous exhorte et nous dit « Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. »
Paulo ni wadutera intege ati dutumbere Yesu wenyene niwe nyanduruko yo kwizera kandi niwe yadusozereye uwo kubwo umunezero yashize imbere yihanganiye umusaraba ntiyagira n'isoni zawo avyagiye iburyo bw'intebe y'Imana.
Quand on lit ce verset, on voit qu'il nous est dit d'avoir les yeux fixés sur Jésus. Vous savez, Jésus, c'est quelqu'un qui a marché dans la foi. Il était loin du Saint-Esprit, mais il exerçait tout son ministère et ses miracles par la foi. La foi de ce que Dieu lui disait, c'est ce qu'il faisait. Et le Saint-Esprit était toujours là pour manifester les choses, que, pour manifester d'une façon miraculeuse les choses que Jésus disait. Quand Jésus disait « Sois purifié », au moment où la parole sortait de la bouche de Jésus, le lépreux était purifié. Quand il disait « Sois guéri », le Saint-Esprit venait et guérissait la personne. Lorsqu'il disait aux morts, à Lazare, la fille de Jaïrus, « Lève-toi ou sors de là », au moment où la parole sortait de sa bouche, le Saint-Esprit venait et accomplissait son miracle. Amen. C'est pour ça que la Bible nous dit d'avoir les yeux fixés sur Jésus. Et quand on considère la vie de Jésus, tout le temps qu'il a passé sur la terre, le temps où il a exercé son ministère, on a de quoi être dans l'admiration quand on voit les miracles qu'il a faits, de grands miracles, de grandes guérisons. Il a multiplié les pains et les poissons pour plus de 5000 personnes. Il a marché sur l'eau. Il a calmé la tempête. Il a chassé des démons. Il a ressuscité des morts. Mais toutes ces choses ne demandaient que peu de foi. Pourquoi je vous dis que ça ne demandait que peu de foi? Parce que quand on nous parle de la foi dans ce verset, d'avoir les yeux fixés sur Jésus, celui qui suscite la foi dans ton cœur, dans mon cœur, et qui mène cette foi à la perfection, après ça, on va nous parler d'autre chose. Et on va nous parler d'un domaine dans lequel Jésus a dû avoir beaucoup de foi. Et ce domaine, eh bien, c'est qu'en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. C'est la deuxième partie du verset
2.
Donc, pour le Seigneur, ressusciter les morts, guérir les malades, etc. C'était une démonstration de peu de foi. Mais quitter le ciel, quitter la gloire, pour venir sur cette terre, cette terre qui était un total chaos. Personne n'était sauvé. Tous les hommes qui vivaient sur cette terre à cette époque-là étaient des pécheurs, des gens qui étaient dans les ténèbres, qui étaient dans le désespoir. Vous savez, quand parfois on regarde certaines personnes, ça nous produit, ça pro, souffre, ça produit dans nos cœurs de la tristesse et de la crainte. On se dit, mais vraiment cette personne-là, sa vie ne vaut rien. Il n'a que des problèmes. Il est dans le désespoir. Et quand on regarde bien, on se dit, mais au fait, moi je sais pourquoi ça ne va pas dans sa vie. C'est parce que là il ne comprend pas ça. Et ça il le fait mal. Et quand il y a tout un enchaînement de choses comme ça, la vie de quelqu'un est vraiment une catastrophe. Et parfois on se dit, quand on regarde cette certaine personne, il
ne
s'en sortira jamais. Il mourra dans la misère. Il mourra dans la médiocrité. Il mourra dans ses problèmes. Personne ne peut rien faire pour lui. Et en fait, c'est l'état dans lequel était l'humanité avant que Jésus ne descende sur cette terre. À vue humaine, c'était une catastrophe. C'était grave. C'était terrible. Mais Jésus n'a pas considéré ces choses. Il a cru que le fait qu'il vienne sur la terre, ça ferait une différence dans la vie des hommes. Il a cru que le fait qu'il donne sa vie en sacrifice allait donner la nouvelle naissance. Et ça, c'est un miracle. C'est la foi de Jésus qui a produit ces choses. Vous savez, quand Jésus était sur la terre, pour ce qui concerne les miracles, les guérisons, les délivrances, les résurrections, il avait beaucoup de succès. Il a toujours guéri ceux qui venaient à lui. Jésus ne s'est jamais trouvé dans une situation où il impose les mains à quelqu'un et que cette personne n'est pas guérie. Il a toujours réussi. Il a toujours amené le surnaturel de Dieu. Mais il y a un domaine dans lequel Jésus n'a pas eu une grande réussite. Et comprenez bien, quand je dis cela, ce n'est pas un manque de respect. C'est juste une question de vous montrer le cœur des hommes qui vivait à l'époque de Jésus. D'abord, il a reçu de l'opposition, des moqueries, de l'incompréhension, de la jalousie. La foule qui disait aujourd'hui, « Oh, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » C'est cette même foule qui le lendemain disait, « Crucifie-le. » Les gens de son époque n'ont pas cru en lui. Ils n'ont pas du tout cru en lui. Tout le monde l'a abandonné. Même ses propres disciples. Même les 12. Même Pierre. Tout le monde l'a abandonné. Donc dans l'apparence, Jésus qui vient, qui offre sa vie, qui est livré, Jésus aurait pu se dire beaucoup de choses. Il aurait pu avoir une multitude de pensées. Il aurait pu se dire, mais finalement, pourquoi est-ce que je fais ça? Lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémani, sur le point d'être livré, aux angoisses, en proie aux angoisses, à la détresse, il avait toutes les raisons de dire, mais qu'est-ce que je fais là? Et quand il voit tout le monde l'abandonner, il aurait pu dire, mais ça ne sert à rien tout ça. Ce que je fais, c'est inutile. Et peut-être une fois que je serai mort et que je serai ressuscité comme le Père l'a promis, ces hommes-là qui sont tellement dans les ténèbres, dans l'incompréhension, dans la confusion, peut-être que finalement il n'y en a aucun qui va se convertir. Jésus avait tous les droits de penser ça. Il avait tous les droits de penser ça. Mais Jésus voyait au-delà des choses présentes, au-delà des circonstances. Pourquoi? Parce qu'il avait entendu la voix du Père. Et si Jésus a été capable de manifester cette foi, renoncer à la gloire du ciel, nous, ça ne nous dit pas grand-chose parce qu'on n'a jamais vu la gloire du ciel. On ne connaît pas la gloire du ciel. On a tous plus ou moins, d'une manière ou d'une autre, expérimenter l'amour, la présence de Dieu. Mais la gloire du ciel, on ne l'a jamais vue. On ne l'a jamais expérimentée. Jésus, si. Et pourtant, il a quitté ces choses parce qu'il avait une vision. Il a quitté ces choses par la foi. Et quand il était sur cette terre, ce pourquoi il croyait, c'est-à-dire ton salut, mon salut, ce n'était pas encore accompli. Il a cru sans le voir. Il a été jusqu'au bout sans voir quoi que ce soit. Amen. Ça, c'est vraiment la foi. C'est la foi. C'est ce que Jésus a fait. Quand on lit dans Romains chapitre 4, on va voir que Dieu est vraiment un Dieu de foi envers nous les hommes. Romains, l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 4, on va lire le verset 17. Là, l'apôtre Paul parle d'Abraham. Et il dit, le Seigneur parle d'Abraham. Et il dit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient.
Ngo niwe sobokuruza watwese mu nyongazi yo yizeye nkuko byanditswe ngo nkugize sekuruza w'amahanga menshi niyo mana izura abapfuye kandi yita ibitariho nk'ibiriho.
Vous savez, Dieu est quelqu'un d'incroyable. Quand je dis incroyable, c'est dans le sens d'extraordinaire. Il dit les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà là, parce qu'il voit dans l'avenir et il sait que ces choses vont se produire. Et ce que je veux te dire ce matin, mon frère, ma soeur, c'est que Dieu croit en toi. Il croit en toi. Dans le sens qu'il croit que tu vas réussir. Tu vas rentrer dans ses plans pour ta vie. Il croit en toi dans le sens qu'il croit que tu vas réussir et que tu vas y arriver. Parce que vous savez, il y a beaucoup de personnes, même s'ils ne le montrent pas, qui ont une pauvre opinion d'eux-mêmes, qui se sentent nuls, incapables et qui vivent dans le désespoir. La parole de Dieu nous montre l'histoire d'un homme qui avait exactement cette pensée sur lui-même. Et pourtant Dieu a prononcé d'autres paroles sur sa vie. Et cet homme, c'est Gédéon. On va lire ensemble dans le livre des Juges au chapitre 3. Juges, c'est juste après Josué. Au chapitre 6, pardon, l'histoire de Gédéon. Quand on connaît l'histoire de cette époque, on voit que régulièrement, le peuple d'Israël s'éloignait de Dieu, il tombait dans l'idolâtrie, et à cause de cela, les ennemis venaient les assaillir et avaient la victoire contre eux. C'est un peu comme si, tu sais que à l'extérieur de ta maison, il y a des bandits. Tu ouvres la porte et tu les laisses entrer chez toi et te piller. C'est ce qui se passait avec Israël. Du fait qu'ils péchaient, qu'ils étaient dans l'idolâtrie, qu'ils s'éloignaient de Dieu, ils ouvraient la porte à l'ennemi. Et en fait, le peuple d'Israël cultivait Et au moment de la récolte, les Madianites venaient, ils pillaient toute la récolte, et le peuple d'Israël se retrouvait sans rien du tout. Ça, c'est vraiment une image intéressante. Juste une petite parenthèse. Combien on voit de personnes qui se tuent au travail et qui, au bout du compte, ils n'ont rien ou presque rien. Amen. Donc on voit Gédéon, c'était un homme comme tous les autres. Gédéon, c'était quelqu'un de faible, quelqu'un de craintif, quelqu'un d'une petite tribu d'Israël et d'une petite famille. Et en plus de ça, il était le plus jeune, le plus petit de sa famille. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait comme tout le monde. Il essayait de cacher sa récolte avant que les Madianites ne viennent lui piller ces choses. Gédéon, à ce moment précis, n'était pas un homme de foi. C'était pas un homme rempli du Saint-Esprit. C'était pas un homme qui donnait de grandes paroles et qui faisait de grandes déclarations. Ce n'était même pas un homme qui cherchait Dieu. Mais Dieu le cherchait, parce que Dieu avait un plan pour sa vie. Et on lit au verset 12, Juges chapitre 6, verset 12, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Si on avait dû s'arrêter aux apparences, si on avait dû dire vaillant quelque chose, on aurait pu dire vaillant zéro, mais pas vaillant héros. Parce que l'attitude que Gédéon montrait, donnait, déployait n'était pas du tout héroïque. Mais pourtant Dieu lui a dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Parce que Dieu voyait dans l'avenir. Il appelle par sa parole les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà là. Voilà notre Dieu. Voilà la foi qu'il déploie sur ta vie et sur ma vie. Il voit des choses qui ne sont pas encore là. Et alors, Gédéon, quand il entend cette parole, il va dire, mais qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que tu es, Seigneur? Est-ce que tu es vraiment avec nous? Parce que avec tous les problèmes que nous avons, franchement, je ne vois pas que tu es avec nous. Et peut-être que c'est ton cas ce matin. Avec tous les problèmes que tu as, tu peux te dire franchement, je ne vois pas que Dieu est avec moi. Et le Seigneur continue. Et il dit à Gédéon, vas-y, avec la foi, la force que tu as, va avec la force que tu as et va délivrer mon peuple. Là, Gédéon, il était complètement dépassé par ses paroles. Mais moi, je suis qui? Je suis qui? Avec quoi est-ce que je vais délivrer Israël? Ma famille, c'est la plus pauvre de Manassé. Et moi, je suis le plus petit dans la maison de mon père. Je ne suis rien du tout. Pas quelqu'un de grand, de beau, d'intelligent, de riche, ni même de qualifié. Et pourtant, le Seigneur a parlé sur sa vie. Vous savez, le Seigneur a choisi les choses faibles de ce monde pour manifester sa gloire. Parce que quand on sait que l'on est riche, que l'on est intelligent, que l'on est beau, que l'on est puissant et qu'on sait faire beaucoup de choses, alors on est pas forcément dans la meilleure position pour que le Seigneur nous utilise. Parce qu'on risquerait de croire que c'est nous qui avons fait ces choses. Parce qu'on est beau, on est riche, on est intelligent, on est connu. Il faut que ces choses meurent. Ça ne veut pas dire que Dieu n'aime pas les beaux, les riches, les intelligents. Et qu'il ne veut pas les utiliser. Parce que ça aussi, il le veut. Mais que ça ne soit pas une chose qui t'amène à penser que tu es meilleur que les autres. Que tu es quelqu'un. Amen.
Amen.
Gédéon savait qu'il ne pouvait rien faire. Il ne comprenait pas du tout ce que Dieu lui disait. Ça dépassait complètement son intelligence. Amen.
Amen.
Quand le Seigneur parle,
Amen.
Il parle en voyant des choses que nous ne voyons pas, que nous ne sommes même pas de toute manière capables de faire. Nous
ne
sommes pas capables de faire.
Amen.
Amen. Il voit. Il dit et il attend une chose, c'est que tu l'écoutes, que tu le crois et que tu lui dises: Seigneur, moi je ne comprends pas ces choses, mais si c'est toi qui l'as dit, tu es quelqu'un qui sait de quoi il parle. Vous savez, dans la vie, il y a beaucoup de gens qui nous parlent, qui nous disent des choses.
Et
il y en a certains, on peut les prendre au sérieux, d'autres non. Dieu est quelqu'un que nous pouvons, en tout temps, en toute occasion, prendre au sérieux. Voyez Gédéon. Dieu dit de lui: vaillant héros. Et pourtant, même après avoir entendu ces paroles, même après avoir entendu cette promesse, va avec la force que tu es, que tu as, car je serai avec toi. C'est moi qui t'envoie. Il entend ces choses, et malgré cela, il est toujours quelqu'un de craintif, parce que en même temps, le Seigneur va lui dire: tu vas renverser l'autel qui est chez ton père. Parce que même son propre père avait construit un autel chez lui en l'honneur de Baal. Et Dieu dit à Gédéon: tu vas détruire cet autel. Et on lit au verset 25: dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon: prends le jeune taureau de ton père, un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat-le sur le pied, et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu lui offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit, mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour.
Ati hitana imfizi ya so imwe ya kabiri imaze imyaka 7 usanga ngugure igicaniro cy'abayari kiri kwaso utemagure inkingi y'ikigirwamana ashera ishinzwe iruhande yacu uheze unyubakire igicaniro kuri iki gitandara Jehovah Imana yawe mu buryo bushinzwe ujane ya mfizi ya kabiri uyitange kwikemazi cyo kosa ucanirize inkingi Zaya nkingi ya Asheru uzoba watemaguye. Nuko Gideoni ajana abantu 10 bo mu bantu biwe abigenza nkuko Uhoraho yamubariye.
À ce point, on voit que Gédéon, il n'a rien à voir avec David. Vous savez, le roi David, tout le monde l'admire. À l'âge de 17 ans, c'est lui qui déchire un ours, qui tue un lion, qui n'a peur de rien. Quelques années plus tard, il va même tuer Goliath en étant rempli d'assurance. Cet homme a osé insulter l'armée du Dieu vivant. Tout le monde admire David. Et tout le monde, quand on regarde Gédéon, on peut se dire: celui-là, il est minable. Il est comme un insecte. Il n'y a qu'à donner une pichenette. Et il est déjà parti.
Le
Seigneur lui dit de faire quelque chose. Tu prends le taureau de ton père. Et encore, t'en prends un deuxième. Il s'est mis à trembler.
Oh.
Vous les Burundais, vous savez ce que c'est important. Si tu as des vaches, tu en as une dizaine, tu as deux taureaux dans ton troupeau, huit vaches, le matin tu te réveilles, tu vois que ton fils a tué les deux taureaux, ça va crier dans la maison. Amen. Et c'est normal. Ça se comprend très bien. Gédéon avait peur. Très peur. En plus, renverser l'autel de son père. Alors il fait ça la nuit.
Vous
voyez, c'était un homme craintif. Et une fois qu'il a fait ce que Dieu lui a demandé de faire, il a commencé à être rempli de doutes. Est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé? Est-ce que c'est pas Dieu qui m'a parlé? Est-ce que c'est vraiment moi? Mais moi, je suis qui? Et qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que c'est Dieu qui est dans ces choses? Ou est-ce que c'est ou Dieu n'est pas dans ces choses? Il va demander au Seigneur. Vraiment, il faut que tu me le montres. Parce que moi, je ne suis pas si sûre. Si, quand je vais mettre cette peau de mouton dehors, toute la terre est mouillée et que cette peau est sèche, alors je comprendrai que c'est toi. Et le lendemain, il fait le contraire. Que toute la terre soit sèche et seulement la peau mouillée. Et ces choses se sont produites exactement comme ça. Vous et moi, nous n'avons pas besoin de demander ce genre de choses. N'allez pas acheter toutes les peaux de mouton que vous allez trouver. Parce que nous avons le Saint-Esprit en nous. Amen. Et nous pouvons entendre la voix de Dieu. Donc, craintif, incrédule, et ensuite terrorisé. Parce qu'il va se retrouver donc à faire ce que Dieu lui demande, mais au lieu d'avoir, comme il était prévu à l'origine, 22 000 hommes, alors que tout au départ, il y avait 32 000 hommes qui sont passés à 22
000,
puis 10 000, et finalement 300. Il se retrouve seul avec 300 hommes face à une armée gigantesque, les Madianites qui étaient comme des sauterelles qui remplissent la terre. Et là, il va être terrorisé. Mais le Seigneur va l'aider encore. Chapitre 7, verset 9. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, « Lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pura ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela, tes mains seront fortifiées. »
Kumurongo w'icyenda igice cindwi ijoro ry'uwo munsi uhora haramubarira ati va hasi umanuke aho bashagaje kuko mbagabuye mu maboko yawe ariko ni wabutinya jana n'uwo muntu wawe pura umanuke aho bashagaje wumvirize ibyo bavuga.
À chaque fois qu'il s'est retrouvé dans le doute, dans la crainte ou dans la terreur, le Seigneur est venu et est intervenu. Il a parlé au cœur de Gédéon. Il l'a aidé dans sa foi. C'est pour ça que vous et moi, il y a une chose que nous devons faire. Ayons les regards fixés sur Jésus. Lui qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. Il suscite la foi. C'est ce qu'il a fait dans le cœur de Gédéon. Et il l'a mené à la perfection. Au travers de ses épreuves, de ses difficultés, Gédéon a expérimenté Dieu. Que ce soit dans l'histoire de la toison, que ce soit dans l'histoire au moment où il devait attaquer, Gédéon a expérimenté Dieu. Il a expérimenté des choses qui l'ont fortifié jusqu'au point où sa foi a été amenée à la perfection. Vous savez, il y a différents niveaux, différents degrés dans la foi. Et la question n'est pas de se désespérer quand on n'a pas eu la foi pour quelque chose. Hier, Tu peux l'avoir aujourd'hui ou demain. Dans la vie, on a besoin de grandir. On a besoin de se développer. On a besoin de comprendre. On a besoin d'expérimenter. On a besoin de révélation sur la personne de Jésus. Amen. Et plus nous le connaissons, plus nous comprenons ces choses, plus cela nous deviendra facile de rentrer dedans. Ce que Dieu dit sur ta vie, c'est à un certain point. Là où tu es, c'est peut-être pas exactement au même point. Mais ça ne veut en aucun cas dire que Dieu s'est trompé, que Dieu a exagéré ou que Dieu a menti. Pas du tout, Dieu n'est pas un menteur. Il dit des choses et ce qu'il attend de nous, c'est que nous marchions dans cette direction jusqu'à temps que ces choses soient parfaitement réalisées. Si tu savais comment Dieu te voit, cela te donnerait du courage, cela te donnerait de l'énergie, cela te donnerait de la joie, cela te donnerait de la force. Et c'est à cela que tu dois regarder ce matin. Dieu a confiance en moi. Il m'a mis sur cette terre. Il m'a sauvé. Il a confiance en moi. Il a dit des choses merveilleuses et glorieuses sur ma vie. Et je vais y rentrer. Et je vais y arriver. Non pas par mes propres forces, mais par l'instruction, par le développement. Vous savez, on doit grandir naturellement. Et on doit grandir également spirituellement. Quand on voit un bébé qui vient de naître, on ne voit pas comment on peut dire à cet enfant qui vient de naître, qui mesure à peu près 50 cm, s'il te plaît, viens ici, parce que tu es un homme, et déplace-moi ce pupitre, parce qu'il me gêne là. On ne peut pas attendre de telles choses. Vous savez, il y a une femme dans la Bible qui m'a vraiment étonnée par sa foi également. C'est Ève. Juste après avoir chuté, désobéi à Dieu, chassé du jardin, on lit au chapitre 4, verset 1, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel.
Ève
dit, j'ai acquis un homme. Et je vous assure que quand elle a mis au monde
Caïn,
c'était encore un bébé. Caïn est né comme un bébé, comme tout le monde. Il n'est pas né à la taille d'adulte. Mais elle avait une vision que ce bébé allait devenir un homme. Amen. Amen. Et ayez cette vision pour vous-même. Et aussi pour vos enfants, si vous en avez. Que cette petite personne qui est là, un jour va devenir quelqu'un de grand. Amen. Quelqu'un qui va marcher avec Dieu. Nous, parents, nous avons un rôle, celui de guider nos enfants dans la croissance, dans la connaissance, dans la compréhension, afin qu'ils puissent saisir ces choses. Quand vous priez à la maison, au lieu de planifier des choses pour vos enfants, cet enfant-là, il va reprendre mon commerce après moi. Celui-là, je vais l'envoyer en Suède. Celui-là, je vais l'envoyer au Canada. De faire nos plans comme ça, vous savez. Et après, je vais dire, « Oh Seigneur, ouvre les portes pour que ces choses arrivent. » Le contraire. C'est le contraire. C'est le contraire qu'il faut faire. Tu prends tes enfants. Tu dis, Seigneur, le premier, qu'est-ce que tu veux pour lui? Qu'est-ce que toi tu dis sur cet enfant? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu as prévu? Et ensuite le deuxième. Et ensuite le troisième. Et ainsi de suite. Et ensuite, quand tu sais ce que le Seigneur dit sur tes enfants, toi, dis-le aussi. Dis-le aussi. Dis-le dans tes prières. Dis-le à ta femme. Dis-le à ton mari. Celui-là. Voilà ce qu'il va devenir. Et ce n'est pas de l'orgueil. C'est juste parce que Dieu te l'a dit. Celui-là, voilà ce qu'il va devenir. Voilà ce qu'il sera. Et ton rôle. Mon rôle aussi en tant que parent, c'est de guider nos enfants dans ces choses. Parce que je vous assure, souvent on parle de récompense. Un jour on va mourir, on va passer devant le tribunal de Christ pour recevoir des récompenses. Et souvent notre vision, elle est bien faible. Bon, j'ai parlé de Jésus, j'aurai une récompense. J'ai prêché un peu, il y a des gens qui ont été convertis, j'aurai une récompense. Ou j'ai enseigné, j'aurai une récompense. Ou j'ai donné ma dîme, j'aurai une récompense. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais c'est peu, c'est faible. Il y a un autre niveau de récompense. Je te répète, il y a un autre niveau de récompense pour ceux qui auront aidé leurs enfants, d'autres personnes, n'importe quelle personne à entrer dans le plan de Dieu pour leur vie. Et comme je vous le disais tout à l'heure, souvent les apparences sont complètement contraires à ce que Dieu voulait, à ce que Dieu a dit. Regardez la vie de Jésus. Tout le monde l'a rejeté. Tout le monde l'a abandonné. Les apparences étaient tout à fait contraires à cette prière même que Jésus a priée. Je prie pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Afin que le monde voit que tu m'as envoyé, que je suis en toi, que tu es en moi. Les apparences étaient le contraire, complètement le contraire. Je connais un homme qui est maintenant un évangéliste, qui est d'ailleurs âgé, un homme qui est devenu âgé. Et quand il était jeune, c'était quelqu'un qui ne marchait pas du tout avec le Seigneur. Alors qu'il était encore jeune, il a quitté sa maison pour vivre sa vie, parce que ça ne l'intéressait pas de faire des études et de rester chez ses parents. Et il a commencé à traîner dans les boîtes de nuit, à se droguer, à vivre vraiment de mauvaises expériences et faire de mauvaises choses. Mais ce garçon avait une mère. Que chacun bénisse le Seigneur pour sa mère. Et que chaque mère ici soit une mère comme ça. Il avait une mère qui croyait en Dieu, qui n'a jamais abandonné son fils. C'était une femme de prière. Elle priait pour ses enfants parce qu'elle en avait d'autres. Et elle avait dit, Seigneur, je te remets mes enfants et j'aimerais vraiment que un d'entre eux puisse te servir, puisse être dans le ministère et te servir. Dis-moi lequel. Et le Seigneur lui a dit, c'est Jesse. Il s'appelle Jesse, c'est l'homme dont je vous parle, Jesse. Et la femme s'est dit, la mère s'est dit, bon, si tu le dis, Seigneur. Parce qu'elle ne le voyait pas. Elle ne le comprenait pas. Pour elle, c'était vraiment tout sauf ça. Elle avait d'autres enfants qui se développaient bien, qui marchaient bien. Même avec Dieu. Et elle aurait peut-être pensé à tel autre ou tel autre, mais certainement pas à Jessie. Mais elle a commencé à dire ce que Dieu dit, parce qu'elle savait dans son cœur que Dieu dit les choses qui ne sont pas encore, comme si elles étaient déjà là. Elle le savait, elle le priait, elle le criait, elle le disait. Et de temps en temps, son fils téléphonait et il disait, arrête maman, arrête de prier pour moi. Et sa mère disait toujours des choses de Dieu sur la vie de son fils. Et cet homme, un jour, il s'est converti entièrement, complètement. Il a entièrement donné sa vie pour le Seigneur. Et c'est lui qui a eu une vision du ciel. Il a été au ciel. Il a vu le ciel. Il a vu Jésus, Abraham, la Jérusalem céleste. Il a tout vu. Et ensuite, il est revenu sur la terre, bien sûr, parler de ces choses. Parce que le message qui était dedans, c'était que Jésus revient bientôt. Pour tes enfants, ne t'appuie jamais sur les apparences. Ne t'appuie jamais sur les apparences. Parce que les apparences vont t'amener à faire des choix et à prendre des décisions. Humainement parlant, c'est censé. Mais peut-être que ce n'est pas la bonne décision. Parce que ni toi ni moi ne maîtrisons l'avenir. Nous ne savons rien du tout. Même en sortant d'ici, peut-être que les choses vont se produire exactement comme tu l'as prévu. Peut-être pas. Amen. Dieu croit en nous. Et Dieu demande aussi à chacun de nous de croire d'abord dans nos enfants. Parce que les enfants, ce sont des personnes qui ne nous appartiennent pas, qui appartiennent au Seigneur. Et Dieu, dans sa bonté, il nous les a confiés pour que nous les élevions à la gloire de son nom. Dieu veut que tu croies dans tes enfants. Amen. Et que tu croies dans ton frère, dans ta sœur qui est assise à côté de toi. Peut-être que tu connais des chrétiens. Dans les apparences, c'est pas terrible. Ça ne va pas. Mais le Seigneur nous a donné quelque chose. Il nous a donné une parole. D'abord pour nous aider. Et aussi pour aider les autres. On va lire dans Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, verset 12. Un des derniers commandements de Jésus avant qu'il ne soit livré. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. On va continuer avec Éphésiens, chapitre 4, verset 32. Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Jacques chapitre 5, verset 16 nous dit aussi, priez les uns pour les autres. Je t'aime, je te pardonne, mais je n'oublie pas. Je prie pour toi parce que je suis obligée de le faire. Parce que quand on fait ça, c'est parce qu'on n'a pas bien compris le fond, ce qu'il y a derrière tout cela. D'abord, la première chose que nous devons comprendre, c'est que quand des personnes nous offensent, certains, ils ne le font pas exprès. Amen. Il y en a, ils ne le font pas exprès. Il y en a, ils le font exprès. Ils savent exactement ce qu'ils font. Et ils recommencent. Ils ne veulent pas changer. Et ils ne changeront pas. Ce n'est pas de ces personnes dont je parle. Je parle des autres. Ceux qui ne le font pas exprès. Vous savez, moi, je me rappelle, j'avais, quand mes enfants étaient petits, ils avaient 6 mois, 9 mois, 1 an, on commence à acheter des chaussures. Et c'est toujours des chaussures qui sont vraiment rigides pour tenir le pied, la cheville de l'enfant, pour pas qu'il finisse par marcher comme ça. Vraiment, c'était quelque chose. Et alors l'enfant, lui, ne sait pas marcher. Alors on le tient par les bras et lui, il fait comme ça, vous voyez, parce qu'il ne sait pas encore marcher. Et quand on n'y prend pas garde, et moi, ça m'est arrivé souvent, il te marche comme ça, très fort, sur le pied.
Et
qu'est-ce que tu vas faire?
Tu
lui mets une claque. Oui. Apparemment, il y en a qui pensent oui. Vous êtes là? On ne met pas de claque. Qu'est-ce qu'on fait? On se recule un peu. Parce qu'on sait que quand il va encore faire son truc là, il va nous écraser les pieds. Et il va nous faire mal. Amen.
Amen.
Amen. Et ça ne veut pas dire qu'on ne l'aime pas. Amen. Et ça ne veut pas dire qu'on ne lui pardonne pas. Vous savez, Jésus une fois a dit, quand il était sur la croix, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que véritablement, les gens ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Étienne de même, quand on va pour le lapider, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas du tout ce qu'ils font. Père Étienne, quand il était en train d'être lapidé, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que c'est vrai. Et qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre que Étienne, Jésus, toutes ces personnes-là étaient plus grandes que les autres. Et quand on dit plus grande, ça ne veut pas dire qu'on doit les admirer comme ça. Parce que le seul qu'on doit admirer, c'est Jésus. Amen. C'est le seul qu'on doit admirer. Jésus. Mais des personnes qui avaient compris, qui avaient expérimenté Dieu, qui avaient vu Dieu agir, se révéler dans leur vie, qui avaient grandi. Est-ce qu'on peut reprocher à un enfant? Par exemple, vous avez des fois des enfants, ils sont tout petits. Surtout quand ils ont 3 mois, 6 mois, ça leur arrive souvent. Certains enfants, ça leur arrive de vomir. On leur donne à manger, on le prend dans les bras, et hop, il te vomit sur les habits. C'est normal, parce que c'est un enfant. Mais l'enfant grandit, et quand il devient adulte, il ne fera plus ces choses. En fait, quand tu décides de marcher dans l'amour, dans le pardon et dans la prière, tu vas aider quelqu'un à rentrer dans les choses que Dieu avait prévues pour sa vie. Les choses que cette personne ne connaît peut-être même pas, mais que Dieu connaît, qui a dit ces choses. Et quand tu as ce comportement, tu aides cette personne à rentrer et à amener à l'existence les choses que Dieu avait pour sa vie. Amen. On va prier ensemble.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.